Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Depuis plusieurs émissions, nous nous demandons quelle est la place du chrétien dans la société et quelle influence peut-il y exercer.
Nous allons aborder ces thèmes avec l'aide de notre invité Robert. Nous sommes heureux de l'accueillir parmi nous. Bonjour Robert.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous arrivons à la dernière de nos discussions sur le thème annoncé. De quoi allons-nous donc parler?
Nous ne pouvons pas le nier. Le chrétien qui désire marcher avec le Seigneur et garder un bon témoignage devant les hommes rencontrera des épreuves. Tôt ou tard, il sera confronté à des difficultés, des tentations et subira l'opposition. Tous ces aléas de la vie risquent de ternir son enthousiasme, lui ôter son énergie, le pousser au découragement, voire au désespoir. C'est pourquoi, pour conclure cette série de discussions, je voudrais réfléchir sur la question suivante. Comment persévérer envers et contre tout? Comment persévérer malgré les difficultés, malgré l'épreuve, malgré la dureté de la vie?
Oui, c'est une question pertinente. Comment persévérer? Par où allez-vous commencer?
Il serait bon de nous inspirer de l'exemple de l'apôtre Paul. Tout au long de l'exercice de son ministère apostolique, Paul a grandement souffert. Et nous pouvons nous demander, mais comment a-t-il donc fait pour persévérer?
Rappelez-nous d'abord les souffrances de Paul.
Citons sa deuxième lettre écrite à l'église de Corinthe. À travers le chapitre 11, Paul nous donne la liste des épisodes de sa vie où il dut affronter maintes persécutions. Être en danger de mort, souffrir du manquement. Cette liste est trop longue pour la lire entièrement, mais en voilà un extrait.
Trois fois, j'ai été fouetté, une fois lapidé. J'ai vécu trois naufrages. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Souvent, en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans des régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. J'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits.
Paul a donc beaucoup souffert, et pourtant jusqu'à la fin de sa vie, il a persévéré dans son désir de servir Dieu. Mais comment a-t-il fait? Et que pouvons-nous en apprendre?
On peut avancer plusieurs points pour répondre à cette question, et il faudra les aborder un à un.
Quel est donc le premier?
Paul puisait une joie sans pareille à travers sa relation avec Jésus-Christ, indépendamment des circonstances heureuses ou malheureuses. Il le savait, jamais il ne perdrait aucune des bénédictions reçues en Jésus. Il était convaincu que Dieu, qui est amour, demeurerait avec lui tous les jours de sa vie. Les vérités spirituelles et éternelles qui le nourrissaient faisaient sa joie et son bonheur.
Mais quel peut donc en être l'impact dans une vie?
Si notre joie dépendait de la réussite de nos projets ou de notre ministère, alors, au moment de l'épreuve, à travers les difficultés, elle se ternirait. Nous pourrions nous remettre en question et baisser les bras, et persévérer deviendrait plus difficile.
Oui, vos propos me rappellent cette occasion où les disciples de Jésus étaient partis quelques jours pour annoncer la bonne nouvelle. Lorsqu'ils revinrent de leur périple, ils étaient remplis de joie, parce que des mauvais esprits avaient pris la fuite devant eux. Toutefois, Jésus les mit en garde en leur expliquant qu'ils devaient plutôt se réjouir du fait que leur nom était inscrit dans le livre de la vie.
Oui, Yann, cet incident et ces paroles nous rappellent que notre présence dans le monde ne sera pas marquée par une continuelle succession de victoires. Nous connaîtrons des jours difficiles, et en ces jours-là, il nous faudra persévérer. Il nous faudra puiser nos forces et notre joie dans ce qui demeure inébranlable, dans l'amour de Dieu et son salut. Avant de continuer, j'aimerais que nous écoutions la lecture d'un autre texte biblique, tiré de la même lettre lue tout à l'heure. Dans ce texte, Paul explique lui-même la façon dont il pouvait persévérer malgré les dures épreuves évoquées tout à l'heure.
Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement.
Il est incroyable que Paul puisse affirmer que ces épreuves sont passagères et légères.
Paul compare ses souffrances à la gloire éternelle que Dieu lui prépare. Et il en conclut que ces épreuves sont relativement peu de choses comparées à son espérance. Il peut endurer la souffrance, sachant que le jour viendra où il entrera dans son héritage éternel.
C'est donc l'espérance qui permet aux chrétiens de persévérer.
C'est exact, Yann. L'espoir ou l'espérance joue un rôle important dans la vie. Nous pouvons endurer les ennuis et accepter les sacrifices aujourd'hui si nous savons que notre récompense dans l'éternité sera certaine. Pensez aux étudiants qui s'acharnent et font des efforts dans leur préparation d'examen, dans l'espoir de les réussir et d'accéder à la profession de leur choix. Pensez aux sportifs qui n'hésitent pas à avoir recours aux privations et qui s'entraînent durement dans l'espoir de gagner des médailles d'or. Considérez les durs labeurs des fermiers. Ils s'épuisent pour s'occuper au mieux de leurs champs dans l'espoir d'obtenir une bonne récolte. L'espérance du chrétien surpasse de loin toutes ses attentes mondaines. Et lorsque nous devenons convaincus de cette vérité, alors nous pouvons persévérer dans notre lutte quotidienne et servir le Seigneur dans ce monde.
Rappelez-nous la nature de cette espérance dont nous parlons.
Il s'agit de la résurrection, du passage de la mort à la vie éternelle, dans la présence du Seigneur. Selon l'Apocalypse, tous les maux qui gâchent nos vies aujourd'hui seront bannis de notre nouvelle existence. Dans la présence éternelle du Seigneur, il n'y aura plus de larmes, car il n'y aura plus de raison de pleurer. Il n'y aura ni péché, ni mort. Nos yeux verront Dieu face à face et pour l'éternité. Nous vivrons dans la paix et la joie, la justice et la sécurité.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile de sonder la gloire d'une telle espérance.
Mais comme l'apôtre Paul nous encourage à le faire, nous devons faire tous nos efforts pour fixer nos pensées sur ces éléments invisibles, car ils nous donneront la force nécessaire de tout endurer lors de notre parcours terrestre. Mais Yann, avant de terminer, je voudrais citer un dernier texte qui nous rappelle l'importance de la prière les uns envers les autres, et aussi l'importance de puiser auprès de Dieu la puissance nécessaire pour tout surmonter. Nous devons dépendre du Seigneur en toutes choses, et c'est à travers nos prières que nous exprimerons notre dépendance et notre confiance. Citons donc pour finir une prière de l'apôtre Paul, une prière qui mentionne l'endurance et la persévérance. Et c'est la prière que, chers amis, je formule pour vous aujourd'hui. Depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fortifie pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse, pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie.
Merci Robin pour cette prière qui dirige nos regards vers le Tout-Puissant. Merci également pour votre participation tout au long de cette série. Nous avons beaucoup appris et pouvons réfléchir sur notre propre engagement à faire de bien autour de nous.
Merci pour votre invitation. C'est un plaisir de servir l'Éternel ainsi. Au revoir à tous.
Nous allons à présent passer à notre courte méditation biblique, dont le sujet porte sur le fruit de l'Esprit.
Nous nous pencherons plus exactement sur quelques paroles bien connues, écrites par l'apôtre Paul dans sa lettre à l'église de Galates, chapitre 5, versets 22 et 23.
Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses.
Merci Sandra. À présent, notre invité Étienne va réfléchir sur chacune de ces qualités énumérées par Paul. Aujourd'hui, il abordera la qualité de la bonté. Et je lui cède tout de suite la parole.
Merci Yann pour cette introduction. Et bonjour à tous. Nous allons donc parler de la bonté, et il convient dans un premier temps de bien en comprendre la définition. Le mot grec à l'origine est « krestotes ». Il parle de vertu englobant l'intégrité morale, la bonté, la bienveillance. Il est intéressant de savoir que beaucoup de serviteurs ou d'esclaves, à l'époque de Paul, étaient nommés « krestus », comme si cette qualité de la bonté représentait le caractère du serviteur idéal. D'ailleurs, un bon serviteur est serviable. Il répond aux intérêts et aux attentes de son maître. Il le fait de façon désintéressée. La bonté consiste donc à penser aux autres, à tenir compte de leurs intérêts, à leur faire du bien. Or, la lecture des évangiles nous montre que Jésus possédait ce fruit de la bonté. Il abondait en lui. Nous apprenons même qu'en dépit du fait qu'il était le Seigneur, il agissait et œuvrait en serviteur. Écoutons à ce sujet la lecture de l'évangile de Marc au chapitre 10, verset 45. « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Les évangiles nous révèlent donc à quel point Jésus pensait aux hommes et aux femmes qu'il côtoyait et combien il avait à cœur leurs besoins. Il connaissait les soucis de chacun et il venait au secours des gens en répondant à leurs véritables intérêts. Il a guéri des multitudes de malades, délivré nombre de personnes sous l'emprise d'esprits mauvais. Il a nourri des affamés, il a pardonné à ceux qui étaient coupables. Il a offert aux personnes exclues et marginalisées l'amour de Dieu, ainsi que toutes les promesses qui en découlent. Il a donné un nouveau départ dans la vie à tous ceux qui croyaient n'avoir plus d'avenir. Et pour finir, Jésus a servi les intérêts des hommes et des femmes en mourant sur la croix, en donnant, comme il l'affirme, sa vie en rançon. Jésus est mort en subissant le châtiment de Dieu. Lui, le juste, est mort à la place des injustes. Lui, l'innocent, est mort à la place des coupables. C'est ainsi que nous pouvons recevoir le pardon de Dieu. C'est ainsi que nous sommes réconciliés à Dieu et que nous recevons de sa main bénédiction sur bénédiction dans les lieux célestes. Si la bonté consiste à penser aux autres et à leur donner ce dont ils ont réellement besoin, alors Jésus possédait ce fruit en abondance, car il a donné ce qui lui était le plus cher, il a donné sa vie pour que nous puissions réellement vivre.
Merci Étienne pour cette brève méditation qui dirige nos regards sur la bonté infinie de notre roi serviteur, le Seigneur Jésus.
Et lors de notre prochaine émission, Étienne nous parlera du fruit de la bonté tel que nous devons le reproduire dans nos propres vies. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.